Le journal est présenté par Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Quentin Lafay, bonjour à tous. Emmanuel Macron, devant les membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le président a répondu à certaines questions sur l'avenir du texte à l'approche de son examen à l'Assemblée. Nous irons ensuite à Douvres, sur la côte britannique. Notre correspondante a assisté à l'arrivée d'une cinquantaine de migrants prêts à braver la législation britannique pour trouver un avenir meilleur. Et puis on revient sur la bataille autour du grand tétras, ce gallinacé bientôt réintroduit en France, un projet voué à l'échec selon certaines associations écologistes. Une nouvelle convention citoyenne verra le jour dans les mois qui viennent. L'annonce a été faite hier soir par Emmanuel Macron devant les membres de la convention citoyenne sur la fin de vie. Au moment de la conclusion de leurs travaux l'année dernière, il leur avait promis de les réunir à nouveau juste avant l'examen de la loi sur le sujet. Celle-ci étant inscrite à l'agenda des députés fin mai, c'était hier l'occasion pour le président de répondre à certaines interrogations. Stéphane Robert.
Emmanuel Macron a d'abord salué l'utilité de l'avis rendu par la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui éclaire, a-t-il dit, le travail des parlementaires pour l'écriture de la loi. Mais au-delà de ça, il a aussi salué l'utilité démocratique de l'exercice.
Beaucoup de gens nous disent qu'il y a un désintérêt de la chose publique, les gens vont de moins en moins au vote, et ils veulent être associés à la décision. Je suis convaincu que la démocratie participative et délibérative est une manière de recoller les morceaux.
Par conséquent, a dit le président, il y aura bientôt une nouvelle convention citoyenne.
Je vous confirme aujourd'hui qu'une troisième convention sera bien lancée prochainement, que nous établirons le thème dans les prochains mois et qu'elle sera lancée avant la fin de l'année.
Concernant la fin de vie et la légalisation d'une aide active à mourir, certains lui reprochaient de ne pas dire les choses, de ne pas évoquer le suicide assisté et l'euthanasie, alors que c'est ce dont il est question dans le projet de loi. Et bien non, a répondu le président, ce n'est pas tout à fait ça.
Il ne s'agit pas ni d'euthanasie ni de suicide assisté. Cette loi concilie l'autonomie de l'individu qui exprime cette demande et la solidarité de la nation, puisqu'il aura à chaque fois à l'exprimer, soignant une collégialité. En cela, elle ne crée à proprement parler ni exactement un droit ou une liberté, mais ce qu'on pourrait appeler un dialogue. Elle trace en tout cas un chemin qui n'existait pas jusqu'alors et qui ouvre la possibilité de demander une aide à mourir sur certaines conditions strictes.
Il ne s'agit donc pas, dans l'esprit d'Emmanuel Macron, de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté, mais d'en offrir la possibilité, sous certaines conditions, dans le cadre d'un dialogue avec le corps médical. Et c'est ce qu'il appelle le modèle français de la fin de vie. Mais ça, c'est ce qu'en pense le président. On verra désormais comment les parlementaires s'emparent de la question et façonnent le projet de loi.
Une autre thématique qui provoque des remous en France, Matignon va dévoiler une nouvelle série de mesures pour soutenir les agriculteurs. Gabriel Attal les détaillera tout à l'heure à la foire au Bulot de Pirou dans la Manche. Parmi celles-ci, la mise en place par l'État de prêts de trésorerie personnelle, des garanties pour les prêts des banques commerciales, mais aussi le lancement d'un plan d'accompagnement de l'agriculture méditerranéenne, région la plus touchée par le cumul des crises climatiques. Au Royaume-Uni, la loi Rwanda a reçu cette semaine l'assentiment royal. Ce texte controversé pour envoyer donc au Rwanda toute personne arrivée illégalement en Grande-Bretagne. Pas de quoi cependant dissuader les futurs demandeurs d'asile qui traversent la Manche malgré un trajet périlleux. Les secours français ont d'ailleurs sauvé 54 migrants hier en difficulté au large du Pas-de-Calais. Côté britannique, à Douvres, Emeline Vin a assisté à une arrivée.
Plus d'une cinquantaine de migrants débarquent d'un bateau de la police aux frontières britanniques dans le port de Douvres. Les vêtements trempés, certains pieds nus, sous les yeux de Carole Higginbottom, directrice adjointe du poste de commande aux petites embarcations.
On conduit de premiers tests à bord pour s'assurer que ceux qui sont blessés ou malades sont traités en premier. Ensuite, ici, on les amène dans une première tente, qui est la tente médicale, où tout le monde sera examiné par un ambulancier. Après, ils entreront dans le système administratif.
Les migrants partis du nord de la France ont été interceptés dans les eaux britanniques à bord d'un bateau pneumatique d'une dizaine de mètres de long. Trevor Taylor, officier supérieur, connaît bien ce type d'embarcation.
À première vue, ça a l'air d'être un équipement solide, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce bateau n'est pas fabriqué suivant des normes industrielles. Il vient littéralement d'un garage, avec des matériaux inadaptés pour un navire.
Les migrants ne passeront que quelques heures à Douvres avant d'être envoyés en centre de rétention. Carole Higginbottom espère que le nouveau partenariat avec le Rwanda va mettre un terme à ces traversées, alors que de plus en plus de femmes et d'enfants y participent.
Je ne peux pas commenter l'aspect politique, mais j'espère que cela aura un impact. Notre priorité, c'est de prévenir toute perte de vie et d'empêcher les groupes criminels de faire de gros profits en risquant des vies humaines.
Toujours dans un objectif de dissuasion, le gouvernement finance aussi des campagnes sur les réseaux sociaux dans les pays d'origine, notamment au Vietnam.
Malgré la guerre à Gaza, il y aura des athlètes palestiniens aux Jeux Olympiques. Promesse du président du Comité international olympique ce matin. Thomas Barr l'a déclaré à l'AFP. Si jamais aucun athlète n'est sélectionné aux épreuves de qualification, 6 à 8 d'entre eux recevront des invitations pour représenter la Palestine. La justice autorise les lâchers de grands tétras dans le massif des Vosges. Le grand tétras, c'est ce gallinacé de grande taille au plumage coloré disparu de France. Or, 5 associations environnementales dénoncent une réintroduction vouée à l'échec, qui passe en plus par la capture de 40 spécimens sauvages chaque année en Norvège. Mais le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur recours. Vincent Munier est photographe naturaliste engagé pour la protection de cet oiseau. Pour lui, cette décision de justice conduit de toute façon à la condamnation de l'espèce.
C'est assez révélateur d'une méconnaissance en tout cas. Et ce qui est aussi assez grave, je trouve, c'est que évidemment, il y a aussi plus de prédateurs. Quand il y a moins d'hiver, on a quand même du renard, de la martre. Donc là, ils ont noté dans leur plan de réintroduction de vouloir aussi piéger. Ils vont piéger renard, martre sur les zones où ils vont relâcher les oiseaux. Rien que ça, je trouve que c'est éthiquement aussi. On rentre dans une espèce de manipulation du vivant. Un grand manque d'humilité, pensant que l'homme, on va pouvoir résoudre les problèmes de disparition. Et certes, sur certaines espèces, ça fonctionne. Je suis vraiment pas contre les réintroductions. On l'a vu avec les vautours. C'est les frères Terrasse qui ont mis ça en place. Ça a marché magnifiquement bien. Les gypaètes également. Le castor, ça fonctionne. Le lynx, ça fonctionne plutôt bien quand il y a un peu de pédagogie auprès des chasseurs. Mais les grands tétras en Europe, c'est une espèce où ça a toujours échoué.
Il répondait à Nia Préto. Météo France place 8 départements en vigilance orange, risque d'orage dans le sud-ouest, une alerte qui va de la Charente jusqu'au Gers, de la Gironde à l'ouest jusqu'au Lot à l'est, sinon temps bien gris et pluvieux ce samedi, avec des températures douces, comptées entre 10 et 18 degrés. Les journaux de ce matin ont été réalisés avec l'aide de Waïba Ibrahim.